Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile, le Seigneur est en chemin vers la ville de Jérusalem. Sur les hauteurs se tient la ville sainte et au cœur de la ville sainte, le temple de Jérusalem, le lieu dans l'ancienne alliance où réside la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus va à Jérusalem offrir le sacrifice. Ce sacrifice dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, non pas les sacrifices qui ont lieu dans le temple jour après jour, qui ne sont qu'un symbole du pardon des péchés, symbole du sacrifice que le Christ vient accomplir sur le bois de la croix. Les sacrifices offerts nuit et jour au temple de Jérusalem ne pouvaient pas pardonner véritablement les péchés. Qu'est-ce qu'un agneau en comparaison du mal que nous pouvons accomplir? Mais voilà que l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu lui-même, vient offrir sa vie sur le bois de la croix. Le Seigneur Jésus, en voyant ainsi le temple, annonce à l'avance le sacrifice de la croix et la destruction du temple. Si notre Seigneur Jésus le Christ offre sa vie en sacrifice aux environs de l'an 33, en l'an 70, il ne restera pas une pierre du temple de Jérusalem qui sera rasée, la ville de Jérusalem détruite, le nom oublié, et bien des années plus tard, l'Empire romain décidera la construction d'une nouvelle cité, Aeolia Capitolina, interdite aux Juifs. Il ne fallait plus, dans la tradition romaine, que cette ville devienne la ville sainte. Le Seigneur Jésus annonce tout cela et avec cela annonce la fin des temps. Lorsque nous ouvrons le livre de la Genèse, nous entendons le Seigneur dire « Au commencement, le Seigneur créa le ciel et la terre ». Et dans cette page d'Évangile, le Seigneur nous dit « Le ciel et la terre, mes enfants, passeront, mais mes paroles, elles, ne passeront pas. » Lorsque le bon Dieu, dans l'ancienne alliance, se révèle comme le Dieu éternel, il nous dit « Je suis l'éternel, je n'ai ni commencement ni fin, mais je suis pour vous l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. » Si le Seigneur Jésus, en s'incarnant, en devenant homme tout en demeurant Dieu, vient à notre secours pour nous sauver, il nous met également en garde, il nous invite à veiller, à prier, car la vie chrétienne, certes, vit de l'unique sacrifice du Christ, mais la vie chrétienne a une direction. Nous devons attendre le retour du Christ dans sa gloire. Et le Seigneur Jésus, dans cet évangile, nous dit « Le Fils de l'homme va venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. » Dans quelques semaines, nous allons entrer dans le temps de l'Avent qui nous prépare aux fêtes de la Nativité. Lorsque le Seigneur Jésus s'est incarné dans le sein très pur de la Vierge Marie, lorsqu'il est né à Bethléem, ce n'était ni avec la grande puissance, ni avec la gloire de sa divinité, mais le Seigneur de dire « Si je suis venu ainsi, dans la pauvreté de la crèche, dans l'humilité de la condition des hommes, lorsque je reviendrai, j'apparaîtrai avec toute la gloire de ma divinité. » Le Seigneur Jésus, ensuite de son ascension, est monté aux cieux, et on nous dit « Il est assis » à la droite du Père, la droite de Dieu. Lorsque ainsi le Seigneur contemple la ville de Jérusalem, est bien visible la hauteur du temple Jérusalem. Et juste à sa droite, un peu plus bas, se tient le palais du roi. De telle sorte que le symbole de la royauté en Israël, c'est se tenir à la droite du temple. Le trône du roi se tient à la droite de Dieu. Nous allons bientôt fêter le Christ, roi de l'univers. Il est celui qui se tient à la droite de Dieu. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs avec le Père et le Saint-Esprit. Mais voilà qu'il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Se tenir ainsi à la droite de Dieu, c'est la position royale dans la tradition biblique. C'est également la position du justicier. Nous avons entendu dans le psaume que le Seigneur placera sous nos pieds l'ensemble des ennemis, les ennemis de Dieu. C'est ainsi que le roi d'Israël, comme en Égypte, pour parvenir à son trône, montait un certain nombre de marches sur lesquelles était figuré l'ensemble des ennemis. Voilà que le Seigneur, en entrant dans la gloire du ciel, eh bien se tient à la droite de Dieu. C'est de cette droite de Dieu qu'il descendra pour venir juger les vivants et les morts. Le Seigneur nous dit dans sa première manifestation, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, parce que ce jugement est reporté à la fin des temps. » Le Seigneur Jésus de dire, « Lorsque le soleil s'obscurcira, vous saurez que le moment arrive. » Que se passe-t-il lorsque le Seigneur est ainsi crucifié ? Voilà qu'il y a cette éclipse, voilà qu'il y a l'obscurité, voilà que lorsque le Seigneur meurt, un tremblement de terre est ressenti à Jérusalem. Et lorsque l'on visite aujourd'hui le Saint-Sépulcre, on voit bien combien le mont Golgotha porte aujourd'hui encore les grandes fissures de ce tremblement de terre. De telle sorte que le jugement de la fin des temps commence déjà mystérieusement avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus le Christ. De telle sorte que lorsque le Seigneur dans l'Évangile nous dit « cette génération-là le verra », cette génération, c'est la génération des apôtres, de ceux qui ont connu et vécu avec le Seigneur Jésus. Mais nous sommes également cette génération des derniers temps, puisque nous attendons le retour du Christ dans la gloire. Si le Seigneur donne ainsi ces images apocalyptiques, ce n'est pas tant pour nous effrayer que pour se révéler à nouveau comme le Dieu créateur. Tout a commencé avec la création, le quatrième jour, des luminaires, des étoiles, pour arriver ensuite au monde végétal, puis au monde animal, jusqu'à la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ensuite du péché, voilà notre humanité qui connaît cette déchéance dont parle le Seigneur. Et le Seigneur ne s'en réjouit pas. Le Seigneur est venu nous sauver de cette déchéance pour nous rétablir dans notre dignité d'enfant de Dieu. Lorsque nous avons ainsi la foi, nous ne devons pas être inquiets de cette fin du monde ou de notre propre fin. Nous devons au contraire veiller dans la foi, veiller dans l'espérance et nous efforcer de vivre au jour le jour de cette charité, de cet amour de Dieu dont nous venons et vers lequel nous allons. Lorsque nous parviendrons au ciel, si nous en sommes jugés dignes, voilà que nous n'aurons plus la foi. Pourquoi ? Parce que la foi ici-bas, c'est croire en ce que nous ne voyons pas encore. Au ciel, il n'y a plus de foi, car nous aurons la claire vision. Au ciel, il n'y aura plus d'espérance. Nous n'aurons plus rien à espérer, nous serons ainsi en possession du bonheur éternel. Nous n'aurons rien à espérer, plus rien à attendre, car nous serons en présence de Dieu. En revanche, nous dit saint Paul, l'amour est la plus grande de ces vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, parce que elle, la charité, cet amour qui est Dieu, lui, ne passera pas. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Ces paroles d'amour qu'il est venu nous enseigner pour nous apprendre non seulement à aimer Dieu, mais tout autant à aimer le prochain. En ce mois de novembre, alors qu'avec ces évangiles, nous parlant de la fin des temps, nous prions plus particulièrement pour nos fidèles défunts, eh bien nous prions ce soir pour tous les fidèles défunts dont nous portons chacun le souvenir ému en nos âmes. Nous prions plus particulièrement pour les fidèles défunts de cette terre qui repose ici à Montfaucon et ensuite de cette messe. Pour ceux qui sont ici du village, pour ceux qui ont des défunts en cette terre, nous nous rendrons au cimetière, prier pour leur éternel repos. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, elle qui est la femme de l'Apocalypse, la femme des derniers temps, prier avec nous, prier pour nous, pauvres pécheurs, pour qu'elle puisse vraiment nous aider et bien dans ce chemin de conversion qui est un retour vers Dieu, ainsi soit-il.